Studio Tamani, voici les informations en français.
Fin de visite de 48 heures du ministre algérien des Affaires étrangères au Mali. Durant son séjour, il a été question du renforcement de la coopération bilatérale et de la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Dans les grandes villes, il n'est pas rare de voir des tas d'ordures entassées dans les quartiers. Des spécialistes estiment que ces ordures peuvent avoir des conséquences sur la santé. Le syndicat des transporteurs routiers urbains, interurbains et internationaux et le syndicat des transports par autobus annoncent l'échec des négociations avec le gouvernement. Ils prévoient d'aller en grève du 11 au 13 mai prochain. Voilà pour le sommaire de cette édition. Dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal présenté par Hamsitou Touré. Le ministre algérien des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a achevé hier une visite de 48 heures au Mali. Ce déplacement s'inscrivait dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays. Des questions géopolitiques, stratégiques et de développement économique, mais surtout la mise en œuvre de l'accord ont été abordées. Le point avec Fatih Yatara.
Dès son arrivée, le ministre Ahmed Attaf a rencontré le président Assimi Goïta. Avec ces derniers, les discussions ont essentiellement porté sur l'accord pour la paix et la réconciliation. Nous avons examiné de manière très précise et rigoureuse les conditions à réunir pour parvenir à une relance effective et productive de cet accord, à travers un processus politique qui sera mis définitivement à l'abri des turbulences conjoncturelles, a-t-il déclaré à la presse. Le diplomate algérien a en outre rencontré plusieurs autres personnalités maliennes. Il s'agit notamment de son homologue Abdoulaye Diop. Les deux ministres ont discuté des liens de coopération entre les deux pays. Selon le chef de la diplomatie algérienne, l'Algérie et le Mali partagent les mêmes inquiétudes sur la complication de la situation sécuritaire au Sahel. Cela du fait de l'ampleur que le terrorisme est en train de gagner au Sahel, a-t-il indiqué. Le ministre Diop a salué les efforts consentis par les autorités algériennes dans le retour de la stabilité au Mali. Il a rassuré de la disponibilité du gouvernement malien à travailler avec l'Algérie.
Cette visite du ministre algérien intervient après plusieurs initiatives de son pays de faire avancer la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Pour le professeur Abdoul Sogodogo, enseignant-chercheur et analyste politique, ce déplacement pourrait faire bouger les lignes. Il estime qu'il revient à l'Algérie, chef de file de la médiation, de restaurer le cadre d'échange entre les parties signataires. Il est joint par Fatih Yatara.
Et l'Algérie, par le passé, a déjà réussi ça, à engager les acteurs dans un processus de négociation et de discussion, de dialogue. Donc, je ne serais pas surpris si elle réussit encore à ramener les différentes parties à la table de la négociation pour qu'ils puissent redéfinir peut-être l'accord. C'est en cela qu'il doit continuer à porter ce rôle de leader, ramener, n'est-ce pas, à une, en tout cas, peut-être une interprétation consensuelle de tout cet accord-là pour que, de façon intelligente entre les différents acteurs, ils puissent voir qu'est-ce qu'il faut faire de cet accord-là. Je me dis que peut-être c'est là que l'Algérie a encore l'avantage de jouer son rôle, c'est de rassurer une fois de plus, c'est de mettre en confiance les différents acteurs.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Je l'annonçais dans les titres, il n'y a finalement pas eu de discussion entre le syndicat des transporteurs routiers urbains, interurbains et internationaux, le syndicat des transports par autobus et le gouvernement. Les deux parties se sont rencontrées hier mercredi, mais les négociations ont été annulées à cause des erreurs administratives de la part des syndicalistes. Par conséquent, ils prévoient d'aller en grève du 11 au 13 mai prochain, alors qu'aucune autre date n'est encore proposée pour les prochaines rencontres. Ousmane Koulibaly, secrétaire administratif du Saint-Truy, est joint par Issa Omar Togola.
Dans notre pilarie, on avait associé les chauffeurs. Les négociateurs du gouvernement ont estimé que nous, sur le même pilarie, nos noms ne peuvent pas figurer avec le nom des chauffeurs. Ce sont nos salariés. Ils ne peuvent pas adresser un pilarie de grève à cela. Dans la foulée, nous, on a repris notre pilarie. Donc, en enlevant les chauffeurs, la grève sera menée par les taxes de l'État. Le FGTRAM, Fédération et Groupement des Transporteurs Routiers Agréés du Mali. Le Centric, le syndicat des transporteurs routiers urbains, interurbains et internationaux du Mali. GP, le syndicat des groupes offerts et le syndicat des transports par autobus STA. Nous, on ne demande pas d'argent, on demande que les choses soient mises dans les règles.
Autre titre de ce journal, à Bamako, les dépôts d'ordures ménagères sont omniprésents pratiquement dans plusieurs quartiers. Cette situation peut causer d'énormes soucis de santé, indiquent les spécialistes de la santé. Les riverains se plaignent et interpellent les autorités. Les détails avec Halima Yatara.
Au niveau de ces dépôts d'ordures de Konatebougou, en commune 1 de Bamako, les habitants sont partagés. Si certains pensent que ce dépôt anarchique est dû à l'incivisme, d'autres se sont résignés à vivre tout autour.
Ici, c'est le marché de Konatebougou. Les charretiers viennent déverser les ordures ici le soir. On a tout fait pour les en empêcher en vain.
Chacun fait ce qu'il veut parce qu'il n'y a pas d'endroit précis pour déverser les ordures.
On n'en peut plus avec des odeurs nauséabondes.
Toutefois, les spécialistes de santé affirment que la mauvaise gestion de ces déchets à l'intérieur des grandes villes constitue un véritable problème de santé publique. Dr Salif Kone, spécialiste des maladies respiratoires au CHU du Point G.
Ces déchets sont responsables de maladies environnementales qui sont le paludisme, les maladies diarrhéiques, mais aussi les infections respiratoires aiguës. Et certaines populations se permettent d'enflammer ces déchets pour les éliminer. Cette fumée qui est dégagée est responsable d'un certain nombre de symptômes respiratoires.
Alors, comment se protéger face à cette situation? Pour le médecin, cela nécessite une implication effective, non seulement des populations concernées, mais aussi les collectivités territoriales.
À présent, le dossier de la semaine. Se marier, c'est aussi accepter les frères et sœurs de son mari. Cependant, dans la plupart des cas, le courant ne passe pas entre belle-fille et belle-sœur. Qu'est-ce qui explique cette situation? Comment les deux doivent se comporter pour une vie paisible? Des questions abordées dans ce dossier de la semaine. Une réalisation de Fatoumata Kodio et Ali Cissé avec le concours de nos correspondants de CAI, Cathy et ses goûts.
La cohabitation entre belle-fille et belle-sœur n'est pas toujours aisée dans certaines familles. Et pourtant, des règles définissent le rapport entre celles-ci. Malgré tout, le climat n'est pas toujours calme. Écoutons les témoignages de ces femmes, de Kai et Cathy.
Je m'attends très bien avec ma belle-sœur. Je la taquine beaucoup, mais elle tient à moi et me salit chaque matin.
Je ne m'attends pas du tout avec ma belle-sœur, même pendant le mois de Ramadan. Elle partageait les corvées de la maison entre nous. Elle est difficile à vivre.
Je m'attends très bien avec mes belles-sœurs et on se rend visite mutuellement.
Ces filles sont les préférées de leur mère et elles disent aux belles-filles qu'elles sont les propriétaires de la maison. C'est ce qui amène la mésentente.
Pour des traditionnalistes, chacune des deux a un rôle prépondérant à jouer dans la famille. Selon Karamoko Moussa Balo, les deux doivent s'accepter pour l'harmonie de la famille.
La belle-sœur doit se dire, moi, je dois jouer un rôle d'aiguille entre mon frère et sa femme. Je suis la belle-sœur parce qu'elle est venue chez moi. Et demain, je peux me retrouver dans une autre famille avec d'autres belles-sœurs. Et l'autre doit dire, oui, j'ai quitté chez moi pour venir chez elle. Donc, à moi de concevoir. Il faut accepter l'autre tel qu'il est et non tel que tu veux qu'il soit. Il ne faut pas créer une certaine jalousie entre toi et ta belle-sœur pour dire qu'elle n'est pas mariée ou bien elle a refusé son mari pour rester chez nous, pour nous déranger. Non, dans le bon sens, c'est elle ton mari.
Cependant, les époux ou les frères sont les principaux concernés dans cette situation. Certains avancent des astuces pour tenter de trouver un terrain d'attente.
S'imprégner de la situation et essayer de comprendre. Après, dire à celle qui n'a pas raison son tort. La vérité n'est pas floue.
Il faut conseiller ta femme en lui disant que tes petites sœurs sont tes représentantes. Donc, il faut qu'elle se comporte avec tes sœurs de la même façon qu'elle se comporte avec toi.
Un chef de famille ne doit pas s'impliquer dans les situations de mésentente entre femmes. Sinon, il risque de briser sa famille. Quand on te rapporte, tu sais ce qui est constructif et ce qui est destructif. La vérité n'est pas bonne à dire en tout lieu. Ne t'implique pas. Ce sont des femmes. Laisse-les gérer.
Ce sont des femmes. Laissez-les gérer leurs mésententes, affirment certains. Des propos corroborés par cette pensée africaine qui dit « La maison est belle que lorsque chacun y reconnaît sa part de labeur ».
Nous recevons Mariam Maïga pour l'introduction du Grand Dialogue. Alors Mariam, de quoi parle le Grand Dialogue de ce soir ?
Tracasserie routière, quelle solution à la corruption sur nos routes ? Hamsetou Gogo Touré, c'est le thème de notre émission, le Grand Dialogue de ce soir. Pour en parler, nous avons trois invités. Dramane Konaté, de la synergie des syndicats des transporteurs routiers. Makan Fofana, chargé des questions de transport à l'association des consommateurs du Mali, Askouma. Chaka Koulibaly, du comité national de facilitation des transports. Je rappelle que cette émission se fera en langue nationale, Bamanankan.
Merci Mariam. Vous pouvez écoutez toutes ces informations sur notre site web au www.sujotamani.org ou en appelant gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 321. C'est donc la fin de ce journal qui vous a été présenté par Hamsetou Touré à la mise en onde Gani Kanté. Restez à l'écoute dans un instant, le magazine Tous les enfants du Mali. Depuis des décennies, l'école malienne est confrontée à une baisse de niveau. Pour des observateurs, plusieurs facteurs expliquent cette situation. Mauvaise qualité de la formation, multiplication des grèves, année scolaire tronquée, manque de suivi des élèves à domicile. Ce dernier aspect constitue, selon des observateurs, un défi. Car de nos jours, disent-ils, l'encadrement de l'enfant se limite à l'école alors qu'il se fait à trois dans la rue et à domicile. À cela, il faut ajouter le manque d'autorité des enseignants. Comment faire pour changer les choses face à ces nombreux défis? La réponse dans ce magazine Tous les enfants du Mali, une réalisation de Mamadou Samasekou en collaboration avec certains correspondants.
À Kay et à Bandiangara, des enseignants déplorent que l'éducation des enfants soit aujourd'hui laissée aux seuls enseignants. Aussi, ils déplorent que ces derniers n'aient plus d'autorité pour encadrer suffisamment les élèves.
Dans le temps, les parents de l'élève suivaient de façon assidue les enfants. Le travail d'aujourd'hui est laissé au maître lui seul.
La discipline aussi a baissé largement. Partiellement, le châtiment était accepté de façon modérée. Mais aujourd'hui, même si tu grondes un peu l'enfant, il n'est pas content, il va se plaindre à la maison.
Au ministère de l'Éducation, des responsables affirment que les règles qui sous-tendaient la bonne formation des enfants ne sont aujourd'hui pas respectées. Ils estiment que les années passées, l'accent était mis sur la qualité des apprenants et non la quantité. Mamadou Kanté, directeur national adjoint de l'enseignement fondamental.
Il était retenu comme standard 25 élèves par classe par enseignant. Cela pouvait permettre à l'enseignant de s'intéresser à chaque enfant. Bien dire, bien parler avec les écritures en calligraphe, l'accent de la formation de l'enseignement était basé sur ça. De nos jours, une classe de plus de 60, 70 jusqu'à au-delà de 100 élèves, il faut reconnaître que le maître a même de la peine à connaître les noms de tous les enfants durant l'année scolaire, à plus forte raison, s'intéresser à tout le monde.
L'association des parents d'élèves est aussi de cet avis. Ses responsables pointent surtout du doigt les recrutements et la qualité de la formation des enseignants et administrateurs d'école. Daouda Sakho, secrétaire général adjoint de l'association des parents d'élèves étudiants du Mali.
On ne recrute pas n'importe comment, on ne forme pas n'importe comment, on ne met pas n'importe qui dans les classes. Qu'on se le dise, quoi que l'on dise pour la colonisation, mais vous savez, pendant la colonisation, comment on recrutait un enseignant ? Les anciens qu'on formait à Sibi Kotan ou à William Pointy, mais c'était les meilleurs des classes. Et un comportement moral impeccable. Parce que le colonisateur disait que ce sont ces gens qui peuvent former d'autres personnes, mais pas celui qui vient et se dit en attendant. C'est comme les cours privés. Quand tu appelles un professeur à aider ton enfant en mathématiques, mais il ne faut pas venir toujours le bombarder d'exercices. Il faut savoir connaître d'abord quelles sont ses difficultés, quelles sont ses lacunes.
Les cours particuliers sont de véritables atouts pour rehausser le niveau des élèves, estiment certains parents. Les enseignants de Ségou et Tombouctou donnent leur avis sur les cours à domicile.
Au niveau des cours à domicile, c'est très important. C'est une manière de faire réviser les enfants.
Logiquement, la pédagogie voudrait que le maître qui encadre l'enfant à l'école
l'école ne doit pas l'encadrer à la maison. Ça, c'est pas normal.
Les autorités affirment que, malgré l'énormité des défis, il leur appartient de les relever. Mamadou Kanté, directeur national adjoint de l'enseignement fondamental.
Il faut construire suffisamment de salles de classe et les équiper. Il faut aussi recruter le maximum d'enseignants. Malheureusement, tout cela est lié justement aux finances. Et c'est à ce niveau-là que vraiment nos pays pauvres ont des difficultés à suivre le rythme du développement de la population scolarisable. Mais néanmoins, c'est notre rôle, c'est notre mission de faire en sorte que les enfants soient bien éduqués, bien formés pour l'avenir, et on ne peut que convier les parents à faire en sorte qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle pour que les enfants soient bien éduqués et en famille et dans la rue et à l'école.
Les responsables du ministère expliquent que le recrutement et la construction des écoles étant dédiées à l'État, rares sont les partenaires qui y songent. Ils ajoutent que plus de 80% du budget du département est consacré au traitement des enseignants.